Et toi, Lambert Drainville, t'aimes-tu ça, le patinage?
Oui.
Oui,
Oui.
hein? Moi, il faut que je le dise, j'aime ça. Je m'étais avoué cet été à la barre de l'émission du matin. J'aime ça. Je lis ça. La mère de mes enfants achète toujours le Star System, puis je finissais toujours par passer au travail. Puis là, j'aimais ça. Je suivais les petits potins de nos artistes et tout ça. Mais là, Lambert, tu veux nous présenter un potin d'hier que ça s'est passé dans un coin, un comédie club?
Oui, un comédie club à Québec. J'ai vu ça juste avant qu'on rentre en onde.
Ouais.
Fait que je l'ai envoyé, mais ouais, c'est le ministre de la Culture qui a été pris dans une très, très drôle de situation avec sa nouvelle membre dans un justement dans un comédie club. Fait que je t'ai envoyé ça.
On, jouer, on fait, écoute ça.
Dans un cocktail au travail, c'est quoi votre travail?
Visiblement, elle n'était pas au courant que Geneviève Guilbeault était l'ex de Mathieu Lacombe. Mais bref, ça donne un moment vraiment humoristique. Donc, Mathieu Lacombe a une nouvelle flamme.
Oui, semble-t-il.
Et qui est-elle? Est-ce qu'on le sait?
Non, j'ai pas fouillé le dossier. Ça demeure dans le registre du personnel. J'essaie toujours d'en parler, mais pas d'aller trop loin, parce que ça reste quand même leur vie privée. Là, mais bon.
Oui, c'est ça, exactement. Revenons aux choses sérieuses, Lambert. Churchill Falls, est-ce qu'on est en problématique de voir cette entente historique-là, selon toi, être brisée par Terre-Neuve et le nouveau gouvernement conservateur mené par le nouveau premier ministre là, là-bas, qui est Tony Weddman?
Oui, ben c'est ça. Tu sais qu'à la POC, elle roule pas pour toi.
Ouais, hein? Non, mais c'est vrai, t'as raison. T'sais, on parle de la CAQ, puis on critique la CAQ, puis c'est correct, c'est le gouvernement, puis c'est correct qu'on le fasse. Ouais. Mais à chaque fois que François Legault se dit « Bon, là, j'ai réussi », il y a toujours de quoi qui tombe sa tête, ça n'a pas de sens.
On se rappellera, tu sais, Nordvolt, c'était tambour et trompette, ça a tombé à l'eau. Là. L'entente avec Terre-Neuve, bien honnêtement, là, c'est de loin leur meilleur coup dans la dernière année. Puis Dieu sait comment on en a parlé. Là. On en a parlé des moins bons coups, mais ça, c'est de loin leur meilleur coup. L'entente de Churchill Falls, juste pour que les gens nous suivent, là, c'est une entente qui a été signée à la fin des années 60. Ça devait se rendre jusqu'en 2041. Dans le fond, le deal, c'était Hydro-Québec achetait quasiment toute l'électricité à un prix qui était très, très pas cher et prenait les risques au niveau de la construction des infrastructures. Fait que construisait un barrage, les infrastructures, les lignes électriques qui amenaient l'électricité au Québec. C'est Hydro qui prenait le risque. Et donc, pendant plusieurs années, le Québec a profité d'un prix d'achat de l'électricité qui était absolument dérisoire. Et qu'est-ce que ça a fait? Bien, c'est que ça a créé un fort sentiment de ressentiment chez les Terre-Neuviens qui, quand le prix de vente de l'électricité a augmenté après les années 70, 80, mais là, on sentit qu'ils s'étaient fait vraiment rouler dans la farine avec cette entente-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, en décembre dernier, le premier ministre a annoncé avec le premier ministre de Terre-Neuve-Labrador de l'époque, Andrew Fury, qui était un premier ministre libéral, une nouvelle entente de principe pour renouveler cette entente-là. Donc, elle devait se terminer en 2041. La nouvelle version de l'entente s'étend désormais jusqu'en 2075. Et, bon, quelles ont été les concessions des deux côtés? Bien, le Québec va effectivement désormais payer un petit peu plus cher pour l'électricité qu'il achète de Terre-Neuve. Et Terre-Neuve, en contrepartie, vont recevoir plus d'argent. Que ce qu'ils devaient. Encore une fois, il va y avoir des nouvelles infrastructures de construites à Gull Island. C'est Hydro-Québec qui prend le risque associé à la construction d'un barrage électrique pour le construire, parce que Terre-Neuve n'ont pas cette expertise-là. Et l'entente permet au Québec, est prolongée, donc permet au Québec d'avoir une stabilité au niveau de l'électricité qu'il reçoit de Terre-Neuve jusqu'en 2075 au lieu de 2041, comme ce qui était l'entente initiale. Et donc, ça a été présenté comme un win-win initial
par
M. Legault.
Mais là, Tom Wakeham, qui est le nouveau premier ministre, lui, de Terre-Neuve, en campagne électorale, a dit qu'il allait faire réviser cette entente-là par des firmes indépendantes. Donc, il vient de se faire élire avec une courte majorité de 21 sièges, mais quand même majoritaire avec cette promesse-là.
Exact. Lui, il a joué un peu sur justement ce ressentiment-là qu'à chaque fois que les Terre-Neuviens entendent Churchill Falls, il grince des dents. Donc, lui a misé là-dessus. Et c'est ce qu'il a dit, effectivement, après sa victoire d'hier. Il a dit que lui allait soumettre l'entente à une révision indépendante. Et advenant le résultat de cette étude indépendante-là, allait possiblement faire un référendum avec cette question-là. Demander aux Terre-Neuviens, vous, est-ce que vous êtes pour ou contre l'entente? Donc, c'est ça. L'élément qui nous touche, nous autres, c'est que c'est une entente qui nous avait encore une fois été vendue comme la grosse affaire, comme quelque chose qui était réglé. C'était, comme on l'a dit depuis le début, une entente de principe. Il restait certains détails à ficeler, les Premières Nations, etc. Et là, elle est un peu dans une zone de flou, cette entente-là, qui est, encore une fois, le bon coup majeur de M. Legault dans la dernière année du gouvernement de la CAQ.
Est-ce que le gouvernement de la CAQ pourrait se rasseoir avec justement le nouveau premier ministre et rouvrir cette entente-là pour voir s'il n'y aurait pas possibilité d'avoir un nouveau terrain d'entente à la place de passer par un référendum? Tu l'as bien dit, la population là-bas est très aigrie de la première entente.
Oui, bien, ils vont les rencontrer. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Ils vont les rencontrer assez rapidement, la nouvelle administration, le nouveau gouvernement là-bas. Mais la vérité, c'est que je pense que cette entente-là, on n'aura même pas besoin de la renégocier parce que elle va tenir. Je pense qu'elle va tenir. Quand tu regardes le portrait général, tu sais, hey, Terre-Neuve et Labrador, là, d'abord, c'est 560 quelques mille personnes. Là. C'est pratiquement la grandeur de Laval, là, pour donner une idée de grandeur.
En effet.
C'est la province la plus endettée au Canada. 20 milliards de dettes.
Aïe, aïe, aïe.
Pour eux, l'entente renouvelée, c'est pas juste un choix, là, tu sais, de est-ce qu'on l'aime ou on l'aime pas. C'est comme...
C'est vital.
C'est vital, exactement. C'est vital parce qu'ils dépendent des centaines de milliards que doit leur permettre de récolter cette entente-là. Et donc, ils n'ont pas les reins assez solides financièrement, autant pour tout ce qui est la gestion de leur province, autant pour simplement s'embarquer dans un gros chantier comme ça en solo. Ils ont besoin d'Hydro-Québec. Dans son discours, le nouveau PM a dit « We will develop Churchill Falls, we will develop Gull Island ». La vérité, c'est quand même bien qu'ils essaieraient de le faire tout seul. La dernière fois qu'ils ont essayé de faire ça, ça a été une catastrophe. Ça a amené la province pratiquement en faillite. Mm-hmm. Et là, ils n'auront pas le choix, dans le fond, d'utiliser l'expertise d'Hydro-Québec. Et là, troisième point, ben, M. Wickham, le nouveau PM, ben, a fait plusieurs promesses durant sa campagne, des centaines de millions de promesses. Et il va devoir les financer. Là, la province est déjà
en haut.
Bref, ils ont besoin de cet argent-là. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, ça va tenir. Je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter pour le moment. Mais ça reste du moment qu'on parle d'un référendum. C'est là où ça...
Robert, est-ce que du côté du Québec, on est trop sur les dents par rapport aux coupures dans la fonction publique? Parce qu'on a un sous-ministre, Frédéric Gay, sous-ministre à l'Environnement, qui devant 1000 fonctionnaires a parlé contre l'appareil gouvernemental en disant que ça n'avait pas d'allure, les coupures, puis qu'il n'avait pas dormi pendant des nuits avant d'effectuer ces coupures-là. Et là, on a une plainte pour climat toxique à la CNESST du syndicat de la fonction parapublique du Québec et du syndicat des professionnels et professionnelles du gouvernement du Québec. Coudonc, Krim, on est 13,5 milliards de déficit, on n'est pas capable de faire bouger les choses.
Je vais pas avoir de difficulté à dormir de mon côté, Jeff. Je te le dis tout de suite. Là. J'ai travaillé au ministère de la Santé. J'ai côtoyé. Tu sais, quand tu travailles au gouvernement, c'est main dans la main avec la fonction publique. Il faut qu'ils soient tes plus grands alliés si tu veux que tes choses avancent comme tu le souhaites et à la vitesse que tu le souhaites. Et visiblement, présentement, c'est très tendu, hein? C'est la moindre des choses. Le sous-ministre à l'Environnement est sorti ce matin, mais il faisait suite. Il y a eu la présidente de la Commission de la fonction publique qui est sortie la dernière semaine, sous-ministre à la Justice, à l'Emploi, à CNSST, comme tu as dit, la SAAQ aussi. On a appris ça cette semaine. Fait que c'est très tendu entre le gouvernement et la fonction publique dans un moment où le gouvernement veut justement faire avancer ses affaires bien vite. Fait que c'est pas une bonne chose. Mais je reviens au point que je disais que j'ai travaillé au ministère de la Santé avec la fonction publique et tu as des gens absolument fantastiques. Tu as des atouts dans les ministères qui sont très, très efficaces. Il faut que tu saches les trouver. Puis si tu y parviens, ils vont vraiment t'aider à faire avancer tes affaires comme il faut. Mais en contrepartie, je vais te le dire, Jeff, il y a bien du monde qu'on se demande qu'est-ce qu'ils font.
Ouais, pourquoi c'est ça. Pourquoi sont-ils là?
Comment ça se fait qu'ils sont autant pour faire si peu de choses ou de si petites choses. Alors moi, là, qu'est-ce que je pense, c'est qu'il y en a du gras à couper dans la fonction publique. Il y en a du gras à couper. Maintenant, est-ce qu'il y a certains endroits où ça va faire plus mal qu'à d'autres? Certainement. Est-ce qu'il va avoir est-ce que ça va se faire ressentir sur certains services? Je pense que oui, malheureusement. Mais est-ce que c'est nécessaire pour, en quelque sorte, pousser la fonction publique dans le cul, si tu me permets l'expression,
ben oui.
Et les forcer à faire un exercice d'optimisation, de dire, bon, mais là, on a moins de ressources, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que chacun de nos employés est utilisé au maximum de ses capacités? Ça, moi, je pense que c'est super important. Maintenant, au niveau politique, pourquoi ça a été aussi long, là, t'sais? Ça fait 7 ans qu'ils sont là, là. Le nombre de fonctionnaires a augmenté de 11 000. Là, on apprenait
on en parlait tout à l'heure avec Antonine, justement.
Ben, c'est ça. Ben là, pourquoi est-ce que, tu sais, si ça s'était fait graduellement depuis leur élection 2018, tu sais, par attrition, où on ne renouvelle pas ceux qui quittent pour la retraite, tu sais, ça aurait été fait de façon progressive, puis ça aurait été probablement plus facile à gérer pour l'appareil public. Là, tu te retrouves dans une situation où ce que tu essaies de faire en un an, ce que tu n'as pas réussi à faire en 7, c'est sûr que ça va faire mal. C'est sûr que ça va faire mal. Fait que ça revient encore une fois à peut-être des enjeux de vision et de gestion là, au niveau du gouvernement.
T'as entièrement raison. On termine ta chronique, Lambert Drainville. Tu es avec nous à chaque mercredi et vendredi. Mais là, vendredi cette semaine, on refait ça à midi, toi et Farnell Morisset. Le duo de choc, les auditeurs nous ont écrit. C'est 100% votre note à Farnell et Lambert. Fait qu'on se parle cette semaine pour se trouver un sujet. On termine ta chronique avec la partielle dans Chicoutimi. On en parlait la semaine dernière. PSPP qui était à Chicoutimi au lieu d'être à l'Assemblée nationale pour cette fameuse annonce de la Constitution québécoise. Ça a commencé à brasser au sein des autres partis politiques également?
Oui, c'est ça. Les partis affûtent leur couteau. On voyait ça venir depuis un petit moment, là, depuis que Mme Laforêt a annoncé qu'elle quittait début septembre. Le gouvernement a 6 mois pour déclencher la partielle. Et donc, on essaie de voir quand est-ce que ce serait fait. Évidemment, ils ont grand avantage à déclencher ça le plus rapidement possible pour que leur éventuelle défaite, là, qui se présage très largement, là, on s'attend à une autre victoire du Parti québécois, un 7e député pour eux. Ils ont tout avantage à ce que cette éventuelle défaite-là se fasse le moins collée possible de l'élection pour justement à ce que ça nuise le moins possible à leur reset qu'ils essayent de faire.
Surtout pour les libéraux, Lambert, avec l'arrivée de Pablo Rodriguez?
Ben, moi, je parlais plus pour la CAQ.
Oui, c'est vrai.
C'est eux autres qui vont décider quand est-ce que cette partielle-là va être déclenchée. Et donc, ce qu'on entend de plus en plus, c'est que là, ils veulent... Tu sais, dans le meilleur des mondes, ils l'auraient fait le plus vite possible, comme je te dis. Donc, ils l'auraient fait peut-être maintenant. Tu sais, ils auraient annoncé, on déclenche, on s'en va en campagne, puis on a un vote quelque part en novembre.
Mais on dirait,
là, en novembre, il y a les élections municipales.
Robert Drainville, c'est toujours un plaisir de te parler ici à l'antenne de Boulevard 102.1. On se reparle vendredi en compagnie de Farnell Morisset. Merci pour tes excellentes analyses. Merci d'être avec nous, mon chum.
Merci à vous autres, mais je salue Antonine aussi, c'est très plaisant, c'est une personne que j'ai en haute estime depuis longtemps, Antonine, c'est un grand plaisir.
Dans l'émission On en jase, là, tu me dis, tout le monde s'aime, Lambert aime Farnell, qui aime Antonine, tout le monde s'aime dans mes chroniqueurs, puis c'est ce que j'aime, puis en plus, on n'a pas les mêmes opinions, fait que c'est ce qui est plaisant. Exactement, donc très, très, très plaisant. Merci, Lambert Drainville. On s'en reparle vendredi. Ciao, bye! Et que je suis choyé de faire de la radio avec des chroniqueurs aussi talentueux. Voyez-vous, il y a un auditeur qui nous écrivait, là, justement, crème, j'aurais pensé que Terre-Neuve, c'était riche avec le pétrole. Ben j'aime, moi aussi, mais vois-tu, mon Pierre? C'est justement pour ça qu'on a les meilleurs chroniqueurs et les meilleurs experts avec nous. Une personne également, auditeur, auditrice, qui nous écrit, très bien placé à la SAC, après être passé de 3383 employés en 2017 à 4813 employés en 2024, une augmentation de 42%. 100 employés de moins, c'est nettement, mais nettement insuffisant. Au fond, la SAC, est-ce que ces coupures-là vont vraiment faire une différence? C'est un bon point, Antonine, hein? On se pose toujours cette question-là, justement, à savoir, on a tellement continué à engraisser l'État que malgré le fait qu'on va faire des coupures, des fois, ça va avoir l'effet
c'est
d'un coup d'épée
facile.
Dans l'eau.
C'est plus facile à en ajouter.
Ben oui, c'est clair.
Là, des besoins, tu peux t'en créer à l'infini. Mais quand vient le temps de dire OK, il faut qu'on coupe, là, tout à coup, là, tout le monde fait quelque chose de bien important.
Oui. Hey, France qui nous écrit des excellents chroniqueurs, faut pas oublier Pascal CV. Inquiète-toi pas, France, je l'oublie pas, Pascal. J'ai tellement hâte de la revoir demain. Elle va être de retour justement de son périple au Kilimanjaro. Et demain, midi 30, manquez-le pas. On va faire justement le tour du périple avec Pascal CV. Elle va être dans l'open mic avant 11h. Donc, open mic, elle va plus raconter son histoire Kilimanjaro. Puis à midi et demi, là, avec nous là, dans l'émission. En jazz, on va plus regarder comment sa perspective de vie peut changer après, justement, un trip aussi intense au Kilimanjaro. Antonine, on va faire une courte pause. Par la suite, on revient avec quelques manchettes. On va parler de Gaza, puis je veux te parler d'immigration aussi. Tu es une spécialiste en immigration. J'ai lu plein de chroniques sur l'immigration dans le dernier 24 heures. Une sur Mario Dumont, une de Mathieu Bock-Côté, une autre de Pierre-Olivier Zappa. Je veux me démêler là-dedans. Je suis un peu mélangé. Là, on parle d'immigrants au chômage, d'écoles remplies de personnes immigrantes à Montréal, puis de Régis Labeaume qui essaye de nous faire la morale. Je comprends plus rien. Il faut que tu me démêles, Antonine.
Bon, on va essayer de démêler tout ça ensemble.
T'sais, tu vois comment je suis différent de respect citoyen. Moi, j'ai besoin des femmes en politique pour bien comprendre.
Ben non, mais lui aussi, mais il veut des électeurs femmes. Il l'a dit qu'il voulait séduire.
Yes. Antonine Iaccarini reste avec nous après la pause. On jase de tout ça. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101 à l'émission d'Angers.